Bonjour Julien Guillon.
Bonjour Sarah.
Je vous remercie de nous retrouver au studio de la Maison de l'Aventure à la Chapelle à Vercors. Et on est très heureux et heureuse de vous accueillir pour nous présenter les rendez-vous du Mémorial de la Résistance qui est à Vasseux en Vercors, où vous travaillez en tant qu'historien du parc régional.
Bonjour à vous. Alors pour vous annoncer la tenue de 3 événements cet été, en juillet et en août, notamment le 18 juillet au Mémorial à 15h30 avec l'ouverture d'archives inédites de la Résistance que je pense commenter en direct. Les enfants sont évidemment les bienvenus dans ce genre d'atelier qui est basé sur l'échange et la découverte. Le 25 juillet à 15h30, toujours au Mémorial, avec une conférence qui aura pour thème la reconstruction, évidemment des villages, mais la reconstruction matérielle, mais aussi morale, à savoir comment, après-guerre, on a pu reprendre le cours d'une vie plus ou moins normalement, et surtout essayer de comprendre en quoi les actions publiques ou même d'initiatives privées ont pu aider les enfants du Vercors à se reconstruire, à retourner à l'école, et quelque part même à passer la page, même si évidemment l'histoire et la mémoire de ces événements restent très vives jusqu'à maintenant. Ensuite, le 15 août, à 15h, une espèce de conférence en deux parties. D'abord dans le mémorial, où nous serons face à ce qu'on appelle le mur des engagements, c'est-à-dire que c'est une centaine de très courtes biographies de personnes très différentes qui ont participé à leur manière à la résistance dans le Vercors. C'est un espèce de puzzle d'engagement que nous essayerons d'analyser. Ensuite, nous nous rendrons à la nécropole nationale de Vasseux en Vercors, où nous déambulerons au milieu des tombes et surtout nous tenterons d'expliquer un petit peu ces parcours de vie, ces personnes qui ont une vie avant guerre, pendant la guerre, leurs âges, leur parcours, leur métier, leur profession, pourquoi elles se sont engagées. On abordera également la singularité de cette nécropole qui est unique en France.
Les programmes sont très très riches. Je vous propose d'aller dans l'ordre. On peut d'abord parler des archives inédites. Déjà, qu'est-ce que c'est un archive inédite pour un historien? Comment on va à la recherche d'un archive inédite?
À côté des poubelles.
Ouais.
C'est des cartons qui étaient destinés à aller à la déchetterie ou à être jetés, tout simplement, et que j'ai récupéré. Il y a souvent des cartons des années 70-80, sont très souvent des archives, les vieux papiers qui traînent au fond des tiroirs ou dans des maisons, et on sait pas quoi en faire, et du coup, ça finit à la poubelle. Donc en fait, c'est assez identifiable, ce genre de cartons d'archives un petit peu jaunis, mais ça m'a tout de suite attiré l'œil. Mais effectivement, je crois que j'ai eu raison de les récupérer.
Et vous les avez trouvés où? À quel endroit?
Je ne peux pas vous le dire.
Parce que vous n'avez pas repéré la personne qui les a...
Non, pas du tout.
Ok, donc c'est des archives anonymes?
Non, elles ne sont pas anonymes. J'ai pas tout ouvert, en fait. C'est pour ça que je vais continuer justement le 18 juillet à 15h30.
Ça doit être une énorme émotion.
C'est qu'on cherche un trésor. C'est exactement la même chose, en fait, quand on ouvre le carton, c'est pas ce qu'on va trouver. Et on a l'impression d'être un enfant, en fait. C'est de se dire, qu'est-ce qu'il y a comme trésor là-bas dedans? Et c'est fascinant.
La démarche d'ouvrir des archives avec un public, quel est l'objectif du fait d'impliquer le public dans cette découverte?
L'idée, c'est de montrer les coulisses du métier de chercheur et d'historien qui peut paraître un petit peu surréaliste ou un petit peu nébuleux pour certaines personnes, notamment pour nos jeunes. Essayer d'expliquer à partir de quoi on écrit des livres, comment on écrit des documentaires, en quoi la médiation culturelle se nourrit des recherches archivistiques. C'est vraiment l'idée de rentrer dans les coulisses de mon métier.
Et quelles sont les principales sources qu'on a quand on recherche sur la résistance?
Les sources de la résistance, elles sont malheureusement très rares, activités clandestines, donc le mieux c'était de ne pas écrire. Donc pour l'historien, c'est très problématique, puisque du coup il nous manque quand même pas mal d'archives, contrairement à certaines périodes. Du coup, il y a quand même pas mal de centres d'archives en France qui conservent, en tout cas des archives au sens large de la Seconde Guerre mondiale, et de la résistance plus particulièrement, les archives communales, départementales, nationales.
Et sur les Vercors en particulier, est-ce qu'il y a une spécificité au niveau des sources qui sont disponibles?
Oui, il y a beaucoup de sources qui sont encore privées, ou chez les particuliers, ou au sein d'associations. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir les consulter quand elles sont, si elles peuvent être mises à disposition.
Donc, c'est un terrain encore à déchiffrer?
Complètement. Il y a aussi les malles, les greniers chez les particuliers qui recèlent de trésors, en fait. On imagine que c'est un petit peu les vieux papiers du papy qui sont là. Bon, on sait pas trop ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on met à la poubelle et tout ça? Alors pour moi, en fait, ce sont des véritables trésors qui dorment chez les particuliers.
Et comment les particuliers réagissent quand vous leur expliquez que vous êtes à la recherche d'archives qui concernent la résistance?
Souvent très bien, parce qu'en fait, ils n'ont pas forcément cette... C'est normal, hein, cette conscience-là d'avoir des véritables trésors chez eux. Donc c'est vrai qu'ils ouvrent leur tiroir, ils me montrent, et parfois ils prennent conscience du coup de l'intérêt que ça peut avoir pour la recherche historique.
Et quelle est la chose la plus surprenante que vous avez découvert en ouvrant des archives qui n'avaient pas été encore exploitées?
Un carnet, un peu comme un journal intime qui a été tenu par un maquisard. Ce n'est pas du Vercors, mais juste à côté, qui contenait toutes les notes qu'il a pu prendre en juillet-août 1944, quand il avait pris le maquis, accompagné de dessins un petit peu olé-olé. Finalement, à travers ces dessins un petit peu olé-olé, on s'aperçoit que la vie elle continue quelque part, même si on est dans une pression, j'ose imaginer une pression absolument incroyable en pleine période de guerre, d'une période insurrectionnelle, on risque la mort à chaque minute. Finalement, la vie continue, ce sont des femmes et des hommes, effectivement, comme vous et moi.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment va se dérouler l'activité un séjour d'ouverture d'archives?
Je pose les cartons sur une table, j'ouvre les cartons, et je commente en fait ce que je trouve en direct à l'intérieur. Les documents qui peuvent intéresser la problématique de la résistance Vercors, ceux qui ne vont pas l'intéresser. Et en fonction de quelles recherches je mène en ce moment, ces documents vont pouvoir m'aider ou non dans mes recherches.
Est-ce que le public aura l'occasion de manipuler quelques documents?
Oui, on aura des gants.
Votre deuxième proposition concerne la reconstruction, mais pas seulement la reconstruction matérielle?
Oui, une conférence qui s'intéressera à la reconstruction morale, surtout ce qui sera, ce sont des recherches qui sont en cours, donc je ne peux pas trop m'avancer encore, mais j'essaye de comprendre comment, par quelle filière, est-ce que c'est l'État, est-ce que ce sont des particuliers ou des initiatives privées, des associations qui ont pris en charge, tout de suite, pratiquement au départ des troupes allemandes, nos enfants du Vercors, comment, est-ce qu'ils ont eu une rentrée scolaire, tout simplement, septembre 1944, est-ce que les écoles étaient reconstruites, est-ce qu'elles étaient encore debout, ça dépend des villages du Vercors, comment des manuels scolaires, est-ce qu'il y en a des nouveaux, est-ce qu'ils ont brûlé lors des combats, comment on s'occupe des orphelins, comment on s'occupe des familles qui ont perdu un de leurs membres, même financièrement, quels sont les circuits d'entraide pour des personnes qui ont vécu des événements dramatiques. Voilà, je m'interroge sur tous ces événements de vie qui vont faire que, paradoxalement, la vie va quand même continuer malgré tout.
Quels sont les acteurs les plus visibles dans cette reconstruction?
Il y a plusieurs initiatives. Il y a notamment le don suisse. Les Suisses se sont montrés très sensibles au destin du Vercors résistant, des combats, des destructions. Donc immédiatement, ils vont envoyer, en fait, dès l'hiver 1944-1945, des badelaines pour les enfants, également des manuels scolaires. Ils vont tout mettre en œuvre, en fait, pour que les écoles soient reconstruites. Il y a aussi l'Association nationale des pionniers combattants volontaires du maquis du Vercors qui va, à travers son service social, qui va œuvrer notamment pour les enfants, notamment pour les accueillir. Ils vont carrément créer une colonie de vacances à Saint-Julien en Vercors, notamment pour accueillir ces jeunes qui ont vécu des traumatismes. Donc voilà, c'est tout un faisceau, tout un ensemble en fait d'initiatives qui vont faire que les enfants vont être pris en charge immédiatement après guerre.
Donc l'enfance est très visible dans cette histoire de la reconstruction.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai toujours un souvenir assez ému de quand je pense aux enfants, en fait, qui avaient par exemple 8, 10 ans en 1944, ce qu'ils ont pu voir, ce qu'ils ont pu vivre, comment eux s'en sont sortis après-guerre. C'est toujours une véritable interrogation pour moi. C'est nouveau, ça interroge d'autres attitudes, en fait, pendant la guerre, notamment à l'égard de la résistance. Voilà, quel est l'engagement des familles. Il n'y a pas que le père qui combat, c'est des familles qui rentrent en résistance d'une manière ou d'une autre et qui sont impliquées. Et les enfants ont une place dans ce concours de puzzle de la résistance.
Il y a aussi toute la question de la limite de l'enfance et de la définition de celle-ci.
Tout à fait, après ça interroge à quel âge nous sommes enfants, à quel âge nous ne sommes plus enfants, à partir du moment où est-ce qu'on ne devient plus enfant quand on a conscience qu'un acte peut avoir des conséquences, je ne sais pas. Après, je ne suis ni psychologue ni psychiatre et je veux absolument pas m'aventurer sur des terrains que je ne maîtrise pas, j'en ai pas les compétences, il faut rester humble par rapport à ça, mais en tout cas voilà, je m'interroge quand même à la place de l'enfance pendant la guerre et après-guerre.
Et votre troisième proposition est une visite guidée.
Oui, une visite guidée donc, qui commencera donc en deux parties. La première sera effectuée à l'intérieur du mémorial. Nous nous placerons devant le mur, ce qu'on appelle le mur des engagements, où on présente une centaine de très courtes biographies de personnes qui, à leur manière, ont participé à la résistance dans le Vercors, avec des actions complètement différentes, avec peut-être des idées complètement différentes, voire parfois opposées, mais finalement, ce sont des personnes qui luttaient pour les mêmes choses. Donc voilà, on parlera un petit peu de tous ces gens pour leur rendre quelque part un petit peu hommage. Et ensuite, nous nous rendrons tous à la nécropole de Vassieux, qui est unique en France. Là, je tenterai d'expliquer un petit peu les origines de cette nécropole, ses spécificités, et surtout, nous déambulerons au milieu des tombes pour retracer en fait le parcours de ces familles, parce qu'il y a parfois des familles presque entières qui ont été décimées, le parcours de combattants, de combattantes également, voilà, à travers ces tombes qui restent quand même un lieu de mémoire incontournable dans le Vercors et bien au-delà, évidemment.
Je vous propose de nous adresser maintenant aux personnes qui n'auraient jamais vu les mémorials de la Résistance. Quelle est la spécificité de ces lieux ?
Déjà, le bâtiment, il est unique. Il est perché à 1300 mètres d'altitude, bien caché dans la montagne, comme pouvaient l'être les maquisards. Il est unique puisque des films documentaires ont été réalisés spécifiquement pour le mémorial. Et il y a aussi des témoignages à écouter qui ont été recueillis au début des années 1990, qui sont très touchants. Entre les lieux et le contenu du mémorial et la beauté du Vercors, je vous invite évidemment à venir au mémorial, qui est un lieu incontournable de la mémoire du Vercors, mais aussi bien au-delà de la mémoire combattante en France.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Sarah.